André Michaud, une lignée de jardiniers, pas que des noisettes.
Alors, monsieur André Michaud, expliquez-nous pourquoi vous en êtes arrivé là. Commencez par le début. Nom, prénom, date de naissance.
Je m'appelle André Michaud. Je suis né le 8 mars 1746 dans une ferme de 400 acres au sud de Versailles.
400 quoi ?
Près de 162 hectares. La ferme de Satory était un domaine appartenant au roi, géré par mon père. J'y ai appris le métier dans les jardins autour du palais.
Quel métier ?
Jardinier, monsieur. À mes 17 ans, mon père décède. Ma mère est décédée 3 ans plus tard. Et comble de malheur, 4 ans plus tard, ma femme bien-aimée, Anne-Cécile, perd la vie. Peu de temps après avoir donné naissance à notre fils, François-André, qui est avec moi. Ce fut une dure période. Heureusement, un médecin royal qui connaissait la famille m'a pris sous son aile. Il pensait que j'avais besoin d'un nouveau départ. Il m'a initié à la botanique et, à force de travail, j'ai gravi les échelons.
Vous aviez fait des études auparavant ?
J'ai appris le latin et un peu de grec. Et pour mes voyages, ça me fut bien utile. Mais mon père nous a retiré, mon jeune frère et moi, de l'école. Il a choisi de nous instruire dans l'agriculture. Il voulait que nous soyons armés pour les épreuves de la vie, qui sont le quotidien des agriculteurs.
Quel fut le point de départ de vos aventures ? Racontez-nous.
Grâce à mon père, j'avais développé une bonne capacité à faire pousser des plantes. C'est la perte de mon épouse qui a tout déclenché. Je me suis réfugié dans le travail. Ah, la botanique. Petit à petit, j'ai acquis une réputation de cultivateur de plantes difficiles. Cela a attiré l'attention de fonctionnaires influents du gouvernement du roi Louis XVI.
Et alors ?
J'ai fini par devenir l'élève du célèbre Bernard de Jussieu à Trianon.
Ah, vous avez été l'élève du plus grand botaniste français de l'époque ? C'est bien Jussieu qui a développé le premier système naturel de classification des plantes, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Et ensuite, je suis allé m'installer à Paris pour étudier au Jardin des Plantes, alors connu sous le nom de Jardin du Roi. Là, j'ai fait la connaissance d'André Toin et d'autres éminents scientifiques de Paris. C'est là que j'ai achevé ma formation.
On dit que vous êtes un bourreau de travail. Est-ce vrai ?
Oh, n'exagérons rien.
Mon père fait le modeste, mais tout le monde sait que tu avais rapidement impressionné ces hommes par ton désir, ton énergie et ta capacité de travail acharné.
Au Jardin des Plantes, entouré d'esprits les plus brillants de France, je n'aurais pu trouver meilleur endroit au monde pour parfaire ma formation de botaniste. Je réalise rapidement mon rêve d'enfant de visiter des terres étrangères exotiques. Ah, mon fils, pendant ces années, toi, tu étais au bon soin de ma famille.
C'est-à-dire ?
J'ai d'abord été apprenti, lors d'une expédition dans les montagnes d'Auvergne, avec Jean-Baptiste Lamarck, le géant du naturalisme, et André Toin, à qui je dois tant.
Je connais Poquelin, mais pas ce Jean-Baptiste.
Peu importe. En 1782, je pars en Perse. Il fallait d'abord traverser la mer Méditerranée agitée, puis faire un voyage en caravane de chameaux à travers des déserts habités par des brigands anarchiques et des tribus hostiles, sans oublier une excursion en bateau à travers le golfe Persique. Mais on a fini par arriver. Je me souviens de cette expédition royale au Moyen-Orient qui impliquait environ 120 hommes et 180 chameaux. Lors d'une escale à Alep, j'avais écrit à l'époque « En examinant la multitude de plantes dont abondent les champs, j'ai été transporté au-delà de moi-même et obligé de faire une pause pour tranquilliser mon esprit pendant quelques instants. » J'observais les étoiles pour garder mes repères. Je m'émerveillais que les gens de Bagdad cuisinent dans des poêles à bois en utilisant des tamaris.
Tamaris ?
Oui, un arbuste à feuilles persistantes que je n'avais jamais vu auparavant.
Et c'est tout ?
J'ai été attaqué par des bédouins, détenu contre rançon et forcé de payer des pots de vin quand j'ai atteint la ville portuaire de Bassora, dans ce qui est aujourd'hui l'Iran.
Tu ne m'avais pas dit cela ?
On m'a volé le peu qu'il me restait. Le consul anglais dans cette ville fut si étonné par mon histoire qu'il me donna des provisions pour continuer jusqu'à l'océan Indien.
Alors que l'Angleterre était en guerre avec la France.
Eh oui.
Je comprends que vos voyages sont devenus légendaires.
En 1785, lorsque je reviens à Paris, le roi Louis XVI, désireux d'ensemencer son sublime château de Rambouillet avec la flore du Nouveau Monde, me demanda de lui servir de botaniste royal et me dit d'embarquer pour l'Amérique. Et c'est à ce moment que je suis parti, en expédition avec mon fils François-André.
Vous, le fils, vous me le confirmez ?
Oui, j'avais 15 ans. Père voulait explorer le Cachemire et le Tibet, mais on est parti pour un autre continent. C'était une période où nous étions très occupés. Après un bref séjour dans le New Jersey, mon père et moi, nous nous sommes installés à Charleston, en Caroline du Sud.
Là-bas, le temps était optimal pour la récolte des plantes et des graines. Les arbres indigènes et ceux naturalisés d'Asie semblaient assurés de bien se comporter en France.
Et tu oublies de dire qu'il y avait un accès facile au port pour envoyer les expéditions à la maison.
C'est vrai. J'y ai acheté une plantation de 111 acres.
Encore des acres ?
Eh oui. Exploitant le travail de 2 douzaines de travailleurs esclaves, j'ai transformé l'endroit en laboratoire.
Tu te rappelles aussi l'escapade à travers la Géorgie, la Floride espagnole, avec des orangers qui poussaient sans beaucoup de soin, et comment le rivage couvert d'illicium jaune sentait l'anis ?
Lors d'un voyage sur la rivière Little Tennessee, je suis tombé sur un champ 1 kilomètre de large couvert de fraisiers.
Dont tu as ramassé les racines pour rembouiller.
Ah oui, nous avons suivi la rivière Kehowee jusqu'au Blue Ridge Mountains. Nous avons trouvé un camp indien où le chef du village nous a reçus courtoisement.
Je m'en souviens, les filles de l'homme servaient de la viande de cerf bouillie et du pain de maïs.
Vos voyages contrastent fortement avec tout ce qui se passe en France.
En tant que fils d'infirmier, je n'ai jamais possédé ma propre terre. Je n'étais pas hostile aux objectifs de la Révolution.
Soit, mais ensuite ?
Là-bas, le coût d'entretien de la plantation de Charleston était considérable, et je manquais d'argent. Les choses étaient si graves qu'un banquier de New York m'a refusé un crédit. Je devais trouver une solution.
Ici, à Paris, les courtisans du roi, y compris l'assistant supervisant votre mission, ont fui la ville. Vous étiez plus isolé que jamais.
C'est faux, car en 1793, la République française m'a demandé, lors de mes voyages, d'espionner à sa solde. Ce malheureux épisode m'a créé tant de problèmes. Moi qui ai été mandaté par Thomas Jefferson et l'American Philosophical Society, l'association des scientifiques américains, j'ai perdu beaucoup d'appui et d'amis. Depuis que je suis rentré en France, je me suis retrouvé sans argent, sans emploi, et tous mes envois de spécimens ou presque ont été détournés, ne sont jamais arrivés à Paris, ou pire, ils ont été détruits. Sombre période. Pourtant, j'avais été un loyal patriote. J'ai même chanté la Marseillaise au sommet de Grandfather's Mountain dans les Blue Ridge, que j'ai été le premier à atteindre en août 1794.
Quand exactement êtes-vous entré sur le sol français ?
Je ne pouvais plus financer mes expéditions. J'ai dû partir pour la France en 1795. J'ai fait naufrage, sauvé de justesse. J'ai perdu beaucoup d'affaires, mes boîtes de graines, et mon herbier a été abîmé. Quelle déveine !
Pour être plus précis ?
Je suis arrivé le 25 décembre 1797 à Paris, dans l'ancien calendrier. Je ne suis pas à l'aise avec le nouveau. Tout avait changé. Ça faisait 11 ans que j'avais quitté la France. De plus, j'ai vite compris que l'on ne me verserait pas le salaire promis. J'étais définitivement ruiné, ayant engagé tous mes biens pour mes explorations.
On rapporte que vous viviez plutôt misérablement. Vous me le confirmez ?
Oh, vous savez, j'ai voyagé en pirogue au Canada, en canot d'écorce de bouleau, mais la plupart de mes milliers de kilomètres de voyage dans la nature se sont déroulés en selle ou à pied. Alors vous savez, je me contente de peu. S'il fallait dormir à la Belle Étoile, eh bien je dormais à la Belle Étoile. Je voyageais avec un minimum de bagages et de provisions.
Vous ne répondez pas à la question.
C'est vrai, aujourd'hui je suis célèbre, mais ruiné et sans salaire. Je vis chichement, je dors même sur une peau d'ours. J'ai commencé à rédiger 2 livres, Les chênes d'Amérique du Nord et La flore d'Amérique du Nord. Comme j'ai peu de ressources, afin de pouvoir terminer ces 2 travaux, je voudrais accompagner un nouveau voyage d'exploration dans les mers du Sud.
Monsieur Michaud, au vu des éléments fournis et du témoignage de votre fils botaniste, ici présent, au vu des déboires subis et du travail remarquable fourni, compte tenu des apports que vous avez faits à la botanique en expédiant d'importantes quantités de nouvelles espèces de chênes érables noyés, ainsi que le virgilier, le magnolia à grande feuille, le rhododendron pourpre, et je dois en oublier, vous êtes libre. Nous n'omettons pas d'objection à vos futurs voyages.
En 1800, Michaud accompagne l'expédition Baudin jusqu'à l'île Maurice dans l'océan Indien. Là, Michaud et le jeune zoologiste Bory de Saint-Vincent ont quitté l'expédition pour se livrer à de nouvelles études. au printemps de 1802, il se rendit dans l'île de Madagascar où, avec l'aide de quelques indigènes, il commença l'établissement d'une pépinière. Atteint d'une fièvre pernicieuse, il succomba à l'âge de 56 ans. C'est son fils qui finira et publiera les deux livres cités.